Monsieur Didier Houssin, vous êtes né en 1957 à Strasbourg. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'École nationale d'administration. Vous avez une maîtrise de droit public et une licence de philosophie. Actuellement, vous êtes directeur à la Direction générale de l'énergie et des matières premières au ministère de l'Économie et des Finances et de l'Industrie. Je vous laisse maintenant la parole.
Bien, merci beaucoup. Donc, le sujet de la conférence est l'avenir des énergies fossiles. Dans les années 70, le Club de Rome alertait déjà l'opinion sur l'épuisement prochain des énergies fossiles. Au cours des 15 dernières années, c'est au contraire dans un sentiment d'abondance énergétique que nous avons vécu jusqu'à la flambée récente des prix du pétrole brut. Les bas prix du pétrole nous avaient conduit à oublier un certain nombre de notions comme la rareté des énergies fossiles, la notion de sécurité d'approvisionnement ou encore celle d'économie d'énergie. Il est difficile aujourd'hui de prévoir si le renchérissement des prix du pétrole que nous connaissons est un phénomène passager ou si c'est un phénomène durable. Mais il est sûr que la question de l'avenir des énergies fossiles restera d'actualité. Manquerons-nous demain de ressources? Quel sera leur prix? Le développement de leur usage sera-t-il demain compatible avec le combat contre le réchauffement de la planète? Un jour, le recours aux énergies fossiles sera donc abandonné. Peut-être faute de ressources, peut-être aussi faute de débouchés en raison de l'apparition de nouveaux modes de consommation énergétique ou d'énergie concurrence qui feraient que, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le pétrole n'aurait été qu'un épiphénomène. Ainsi, après tout, pensent les optimistes, peut-être l'âge de pierre n'a pas pris fin parce qu'il n'y avait plus de pierre, mais parce que le progrès technologique a changé la donne. J'aborderai dans cette conférence successivement trois questions. Tout d'abord, quels sont les atouts des différentes énergies fossiles pour répondre aux besoins énergétiques de demain? Deuxièmement, est-ce que nous aurons est-ce que les énergies fossiles seront là pour répondre aux besoins qui sont liés au développement économique? Troisièmement, quels sont les facteurs qui joueront sur les différentes parts de marché des énergies fossiles? Donc, premier point, quels sont les atouts des différentes énergies fossiles pour répondre aux besoins énergétiques de demain? La notion d'énergie fossile recouvre le pétrole, le gaz naturel et le charbon, dont la formation résulte pour les trois énergies en question de transformation de débris organiques déposés dans des bassins sédimentaires. Ne sont donc pas considérées ni l'énergie nucléaire, dont la matière première n'est pas d'origine organique, ni les énergies renouvelables qui utilisent des flux énergétiques comme l'hydraulique, le solaire ou la biomasse. Les énergies fossiles constituent aujourd'hui la réponse dominante aux besoins énergétiques actuels. Ils assurent la couverture de 85% des besoins mondiaux en énergie primaire commerciale, le complément étant assuré respectivement par le nucléaire et par les énergies renouvelables, essentiellement l'hydraulique. Je n'évoquerai pas dans cet exposé la contribution de la biomasse à la couverture des besoins énergétiques, car le caractère essentiellement non commercial de cette ressource de proximité lui confère une problématique particulière. Mais il ne faut pas oublier que le bois fournit néanmoins 1 milliard de tonnes équivalent pétrole de ressources et représente 10% de la consommation mondiale en énergie. Dans un premier temps, je regarderai successivement les atouts et les points faibles de chacune des trois principales sources d'énergie fossile. Tout d'abord, le pétrole, qui est aujourd'hui l'énergie dominante. Selon la célèbre formule de l'économiste de l'énergie Paul Frankel, « Oil is liquid », le pétrole est liquide, ce qui illustre en trois simples mots l'un des principaux avantages dont bénéficie le pétrole. C'est son caractère liquide qui permet un stockage ainsi qu'un transport aisé et peu coûteux du pétrole, qui est pour beaucoup dans son essor. Le pétrole est une énergie mobile par excellence, pour laquelle l'éloignement entre les ressources et les débouchés ne constitue nullement un obstacle à son développement. Ainsi, le coût du transport d'une cargaison de pétrole brut entre le Moyen-Orient et les États-Unis est inférieur à 1,5 $ par baril. Plus de la moitié du pétrole brut qui est vendu dans le monde fait l'objet d'un commerce international. Et l'on voit ici sur cette carte l'importance des flux mondiaux de pétrole, avec par exemple des débouchés aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest pour le Moyen-Orient ou pour l'Afrique de l'Ouest. Le pétrole joue le rôle d'énergie de bouclage du bilan énergétique, ce qui conduit à utiliser son prix comme prix directeur de l'énergie. Cette énergie est d'autant mieux placée pour remplir ce rôle que les différents produits pétroliers trouvent des débouchés nombreux et variés. Les produits obtenus après raffinage du pétrole brut sont ainsi utilisés comme matière première pour l'industrie, notamment le naphtha dans la pétrochimie, comme combustible industriel avec le fioul lourd et les brais, pour les besoins du chauffage domestique avec le fioul domestique et comme carburant dans le transport. Le domaine des transports constitue naturellement son débouché principal et son facteur de croissance essentiel. Les politiques de diversification énergétique qui sont intervenues dans les pays développés au lendemain des chocs pétroliers ont conduit en effet à déplacer le pétrole sur les usages pour lesquels il est substituable, notamment donc l'industrie, la production d'électricité. En revanche, son développement s'est concentré sur les transports, faute d'alternatives économiques aux produits pétroliers sur ce secteur. Ainsi, c'est ce secteur qui connaît la plus forte croissance dans les pays industrialisés. Ainsi, la consommation pétrolière qui était liée au transport a cru de 60% depuis le premier choc pétrolier. Le besoin de mobilité des personnes et des marchandises, entraîné par la mondialisation, a conduit à une croissance constante de ces besoins de transport. Le trafic aérien a connu une croissance de 6% par an en moyenne au cours des 10 dernières années. Le parc automobile mondial augmente à un rythme soutenu entre 4 et 7% suivant les régions du monde. La réduction de la consommation unitaire des véhicules, l'optimisation de la logistique dans le domaine du fret ont permis de limiter partiellement cette croissance. Toutefois, cette tendance s'est récemment ralentie sous l'effet d'un prix de l'énergie du pétrole bas au cours des 15 dernières années. Ainsi, l'augmentation des distances moyennes parcourues, l'accroissement du poids des véhicules, notamment aux États-Unis et en Europe, le développement de la climatisation, sont venus par ailleurs contrebalancer et même au-delà les effets des progrès enregistrés en matière de consommation unitaire des véhicules. Deuxième source d'énergie, le gaz naturel. C'est celle qui connaît aujourd'hui la plus forte croissance, mais le point essentiel, c'est que le gaz naturel reste handicapé pour son développement par le coût de son transport. Le gaz et le pétrole sont naturellement deux énergies très proches, les gisements d'hydrocarbures renfermant très fréquemment à la fois du pétrole et du gaz et faisant souvent l'objet d'une exploitation conjointe. La caractéristique très importante qui distingue ces deux sources d'énergie, c'est le fait que le méthane est très peu dense en énergie du fait de son caractère gazeux aux conditions de pression et de température ambiante. Ainsi, à pression et à température normale, 1 mètre cube de pétrole contient la même quantité d'énergie que 1000 mètres cubes de gaz. Il est donc nécessaire de densifier le gaz pour rendre son transport plus économique. Le transport par gazoduc, dans lesquels les pressions peuvent dépasser 100 fois la pression atmosphérique, constitue historiquement le premier mode d'acheminement du gaz sur les marchés. Le transport de gaz naturel à travers les chaînes de gaz naturel liquéfié est apparu plus récemment, au début des années 60. Ces chaînes sont constituées d'une usine de liquéfaction dans laquelle la température de gaz est abaissée à moins 160 degrés, d'une flotte de méthaniers permettant le transport du gaz ainsi liquéfié et d'un terminal de regazéification dans les pays consommateurs. Du fait de ces investissements, le transport du gaz naturel revient donc 4 à 5 fois plus cher que celui du pétrole. Cet écart de coût croît avec la distance, comme le montre le tableau que vous avez sous les yeux. Ainsi, le transport de pétrole brut sur 5000 km par voie maritime coûte moins de 1 $ par baril, alors que le coût du transport de gaz peut atteindre 10 $ sur cette même distance. Vous voyez sur ce transparent l'impact des distances sur le coût du transport par pipeline, alors que l'on voit aussi bien en matière de pétrole brut qu'en matière de GNL que le transport sur très longue distance, évidemment, est beaucoup plus facile par voie maritime. Cette barrière sur les coûts du transport du gaz naturel explique que ces marchés obéissent à des logiques essentiellement régionales. Autant il y a un marché international du pétrole, autant il n'y a pas de marché international du gaz naturel, mais des marchés régionaux. Ainsi, simplement 20% du gaz consommé dans le monde fait l'objet d'un commerce international. Les principaux flux de transport du gaz sont donc liées en Europe, à l'approvisionnement de l'Europe à partir de la mer du Nord, essentiellement la Norvège, de l'Algérie et de la Russie. L'Asie est approvisionnée depuis l'Indonésie et depuis le golfe Persique. Les États-Unis sont partiellement approvisionnés depuis le Canada. Malgré ce handicap, le gaz naturel est l'énergie qui connaît le développement le plus rapide, de l'ordre de 2,5% par an au cours des 20 dernières années. Il s'est progressivement imposé grâce à ses qualités intrinsèques, notamment sa souplesse d'utilisation liée à son fonctionnement en réseau, et ainsi que la propreté de son utilisation. La faiblesse des émissions de soufre lors de sa combustion confère au gaz un avantage environnemental qui lui permet de progresser sur l'ensemble des utilisations combustibles. Pour garantir sa compétitivité, le prix du gaz est en Europe et en Asie fixé en référence au prix des énergies alternatives, principalement du pétrole. Le gaz connaît aujourd'hui une croissance très forte sur le segment de la génération électrique. Ce mouvement est lié notamment au développement de la technologie des cycles combinés, dont le principe consiste à utiliser la chaleur des gaz brûlés récupérés à la sortie de la turbine à gaz pour générer une quantité additionnelle d'électricité grâce à une turbine à vapeur. Ce type d'équipement présente de nombreux avantages, remarquable taux d'efficacité, modularité, rapidité de construction et respect de l'environnement. Actuellement, c'est donc le marché de l'électricité qui tire pour l'essentiel en Europe la progression du marché des débouchés du gaz. J'en viens maintenant au charbon, qui couvre 27% des besoins mondiaux en énergie primaire grâce à sa place de premier combustible pour la production d'électricité. La consommation de charbon est en effet extrêmement concentrée sur les usages électricité, industrie et notamment sidérurgie. C'est la croissance du secteur électrique qui a permis la poursuite de la progression de la consommation mondiale de charbon. Il est en effet abondant dans la plupart des régions du monde, à l'exception du Moyen-Orient, et notamment présent dans un grand nombre de pays émergents où les besoins en électricité sont les plus importants. Les réserves du charbon sont abondantes, mais le recours à cette énergie, comme on le verra tout à l'heure, est limité par ses caractéristiques de pondéreux et par la nécessité de dépolluer les émissions qui résultent de sa combustion, émissions de poussière, de SO2 notamment. L'Asie est la principale zone de consommation de charbon, qui représente près de la moitié de la consommation mondiale. Le quart du charbon est donc consommé en Chine. D'une façon générale, l'industrie du charbon se caractérise par sa stabilité. Le commerce international est limité. Les prix du charbon sont beaucoup moins volatiles que ceux du pétrole. Les transactions internationales s'effectuent entre gros producteurs et gros consommateurs, comme les sidérurgistes ou les électriciens, qui privilégient des relations de long terme. En complément à ce panorama général, il me paraît nécessaire de préciser que d'un pays à l'autre, la structure du bilan énergétique est bien entendu très diverse en fonction de ses ressources propres, de son niveau de développement et de sa politique énergétique. On constate sur ce graphique, par exemple, les différences très importantes qui existent dans des pays qui sont pourtant aussi proches que les pays de l'Union européenne et qui sont liés à leurs ressources, à l'histoire de leur politique énergétique. Ainsi, comme vous pouvez le voir, l'Allemagne se distingue par la place qui est encore importante du charbon dans sa consommation, puisqu'elle est de l'ordre de plus de 20%. L'Italie montre une très forte dépendance pétrolière et gazière. Le Royaume-Uni a privilégié le choix du gaz, qui représente à peu près le tiers du marché de l'énergie. La France se caractérise enfin par un recours au nucléaire supérieur à la moyenne européenne. Ce rapide aperçu des caractéristiques des énergies fossiles a permis de mettre en avant un mouvement de spécialisation de plus en plus grand des différentes énergies sur certains créneaux qui vient partiellement limiter les possibilités de substitution, au moins à court terme. Toutefois, ces différentes filières énergétiques ont en commun une forte intensité capitalistique. La part des capitaux immobilisés dans la structure des coûts de l'énergie est en effet prépondérante que l'on considère l'amont ou l'aval des différentes filières. Dans le domaine de la production, je citerai par exemple les plateformes de production d'hydrocarbures, les conduites d'évacuation d'hydrocarbures ou les complexes de liquéfaction de gaz. Ainsi, la réalisation d'une chaîne de gaz naturel liquéfié d'une capacité de 7 milliards de mètres cubes, ce qui est une dimension moyenne, représente un investissement de l'ordre de 4 à 5 milliards de dollars. Les investissements annuels qui sont faits dans l'industrie pétrolière pour la simple exploration et production de pétrole brut mobilisent chaque année de l'ordre de 100 milliards de dollars. Cette intensité capitalistique constitue une incitation économique très forte pour les opérateurs à utiliser leurs investissements à pleine capacité. Elle les incite également à dimensionner l'offre au plus près de la demande, d'autant plus que le stockage de l'énergie est physiquement difficile et financièrement coûteux. Du fait de ce caractère capitalistique des investissements, il est difficile d'envisager à un horizon prévisible des ruptures brutales dans la structure mondiale de la consommation. Les besoins en investissement sont tels que le développement de filières de substitution impliquerait des investissements colossaux, lesquels supposent des débouchés certains sur le long terme. Le Conseil mondial de l'énergie a évalué ainsi à 30 000 milliards de dollars les besoins d'investissement dans l'ensemble du secteur de l'énergie pour la période 1990 à 2020. Le graphe que vous voyez ici présente l'évolution de la consommation mondiale d'énergie sur longue période. L'avantage, si on se centre sur la période la plus récente, de montrer l'inertie des bilans énergétiques. Les tendances à l'évolution entre les différentes parts de marché des énergies sont relativement lentes et les chocs que l'on a pu connaître, on voit bien au début des années 70 et à la fin des années 70 l'impact des deux chocs pétroliers. On voit dans le courant des années 90 l'impact de la baisse de la consommation en Russie et dans l'ancienne URSS, mais on voit que ces inflexions qui, quand on regarde le court terme, nous paraissent majeures, si on prend un peu de recul, on voit bien que le profil global du bilan énergétique mondial est très peu évolutif sur courte période. Ceci me conduit à la deuxième question que je souhaitais aborder. Les énergies fossiles permettront-elles de faire face aux besoins liés au développement économique ? La question est double. Comment prévoir à long terme l'évolution des besoins en énergie et donc la part des énergies fossiles? Deuxièmement, est-ce que nous aurons suffisamment de ressources disponibles en matière de pétrole, de gaz et de charbon pour faire face à l'accroissement de cette demande prévisible? En ce qui concerne l'évaluation des besoins, il est évident que la croissance énergétique est extrêmement fortement liée à la croissance économique globale. La production de richesses nécessite de plus en plus d'énergie. Dans le même temps, la hausse des revenus disponibles se traduit par des aspirations croissantes au confort et à la mobilité, eux-mêmes consommateurs d'énergie. Naturellement, ce lien évolue dans le temps, mais elle semble obéir à un même modèle, quels que soient les pays, si on se réfère aux graphes qui sont en train d'être passés, et qui représente l'évolution de l'intensité énergétique des différents pays au fil du temps. L'intensité énergétique est un indicateur qui évalue la quantité d'énergie qui est nécessaire pour la production de 1 000 dollars de richesse. Et cette intensité énergétique, pour chacun des pays considérés, suit dans le temps une courbe en cloche du type courbe de Gauss, avec grosso modo trois grandes phases d'évolution. Vous voyez à gauche les premiers pays qui ont connu une industrialisation avec une forte consommation d'énergie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, puis la France, le Japon. Et vous voyez dans la partie de droite l'apparition des pays émergents qui sont en période de forte croissance de leurs besoins énergétiques. Donc leur intensité énergétique est fortement croissante. On peut dire que dans chacun des cas, on voit se succéder trois phases. La première phase du développement, le pays considéré est essentiellement structuré autour de l'agriculture et de l'artisanat, activités qui sont peu consommatrices d'énergie commerciale et qui sont fondées sur une utilisation massive de la biomasse. Le passage d'une économie industrielle et l'élévation du niveau de vie conduisent à une croissance forte de la consommation d'énergie. Et dans une troisième phase, qui est celle que l'on connaît dans les pays développés, on assiste à une tertiarisation de l'économie avec le développement des services, ou a fortiori de la nouvelle économie aujourd'hui, qui requiert beaucoup moins d'énergie par unité de PIB. Dans les pays de l'OCDE, la hausse des prix de l'énergie consécutifs au choc pétrolier et la diffusion très large du progrès technique ont accéléré ce mouvement à la baisse de l'intensité énergétique. Toutefois, cette diminution historique du contenu énergétique de la croissance ne signifie en rien la baisse de la demande énergétique globale. Ainsi, lorsque la richesse s'accroît de 1%, la consommation en énergie augmente d'environ 0,7% pour les pays industrialisés, mais également de 1% pour les pays en voie de développement ou émergents. Le premier facteur, si on essaie de faire une estimation à long terme à prendre en compte, est le facteur essentiel, est celui de la croissance démographique. Les histogrammes présentent les prévisions qui sont faites actuellement et sur lesquelles il y a un certain consensus à l'horizon 2025 sur une progression forte de la population mondiale, extrêmement concentrée dans les pays émergents, qui sont précisément ceux qui ont une très forte intensité énergétique et une intensité énergétique qui n'est pas encore en période de décroissance, comme on l'a vu tout à l'heure, d'où un besoin d'énergie important. Naturellement, au-delà de 2025, on ne sait pas ce qu'il adviendra de la démographie et les possibilités de rupture qui rendent la prévision beaucoup plus aléatoire. De très nombreux scénarios de prévision de demande de l'énergie ont été élaborés par différents organismes internationaux, comme le Conseil mondial de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie ou la Commission européenne, ainsi que de très nombreux organismes privés. Je souhaiterais ici uniquement évoquer les prévisions du Conseil mondial de l'énergie, mais on peut quand même remarquer que la plupart des scénarios qui sont produits par les différents organismes présentent de nombreux points de convergence, au moins jusqu'en 2020. Ils s'appuient tous sur les hypothèses suivantes: une croissance mondiale de l'ordre de 3% par an, avec une croissance plus forte dans les pays en développement que dans les pays de l'OCDE, une intensité énergétique en diminution de l'ordre de 1% par an, une croissance de la demande énergétique de l'ordre de 2% par an. À l'horizon 2020, les conclusions convergent donc sur le fait que les énergies fossiles continueront à représenter environ entre 80 et 90% de l'approvisionnement énergétique mondial. La part des hydrocarbures resterait de l'ordre de 60% et la demande de pétrole resterait constante aux alentours de 40%, ce qui montre la rigidité de la structure de consommation sur une période qui, à l'échelle de l'évolution des bilans énergétiques, est relativement courte. Vous avez ici un examen plus détaillé des différents scénarios qui ont été retenus par le Conseil mondial de l'énergie et qui conduisent aux résultats suivants. La consommation mondiale s'établirait à l'horizon 2010 entre 11 et 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. Et en 2020, le Conseil mondial de l'énergie a échafaudé trois scénarios, selon un scénario de croissance modérée avec de fortes contraintes environnementales qui conduit à une consommation de l'ordre de 11 milliards de TEP, un scénario au contraire de forte croissance économique avec des prix modérés de l'énergie qui conduirait à une croissance de l'ordre de 15 milliards de TEP, et un scénario médian autour de 13 milliards de TEP, environ de demande énergétique totale à cet horizon. Le pétrole restera donc, dans les différents cas de figure, l'énergie dominante. Sa part dans le bilan global évoluera peu et sa consommation en valeur absolue augmentera et devrait approcher, voire nettement dépasser, les 4 milliards de tonnes, ce qui posera, comme on le verra tout à l'heure, le problème de la disponibilité des ressources à long terme. La production mondiale de gaz pourrait passer de 2 milliards de TEP en 1995 à plus de 3 milliards en l'an 2020. Le dynamisme de la croissance prévue de la consommation de charbon, même dans les scénarios fondés sur de fortes contraintes environnementales, s'explique par la croissance des besoins électriques dans les pays en développement. 2 milliards de personnes aujourd'hui n'ont pas l'électricité dans les pays en développement et la demande d'électricité croîtra au cours des prochaines années à un rythme deux fois supérieur à la demande énergétique globale. L'électricité d'origine hydraulique pourrait se développer dans des proportions importantes dans les grands bassins d'Afrique, d'Amérique du Sud ou du continent indien, mais toutefois la faiblesse des débouchés massifs localement et les difficultés de financement pourraient entraver cette évolution. La production d'énergie hydraulique attendrait donc un peu moins de 1 milliard de TEP en 2020 contre 0,6 en 1995. Enfin, les problèmes d'acceptation par le public du nucléaire ont entraîné une forte révision en baisse des prévisions à cette échéance, qui s'établissent aujourd'hui à moins de 1 milliard de TEP en 2020. Je voudrais évoquer maintenant la répartition géographique de ces besoins, là, qui est effectivement très différente d'un continent à l'autre. La consommation moyenne d'énergie par habitant au niveau mondial est stable aux alentours de 1,4 tonnes d'équivalent pétrole par an. Ce chiffre moyen ne reflète pas naturellement l'écart très important qui existe entre le niveau de consommation moyen des pays en développement et le niveau des pays développés. Ainsi, si le niveau moyen de consommation en énergie qu'on connaît en Europe était appliqué à l'ensemble de la planète, on aurait un doublement des besoins énergétiques. Si le niveau moyen de consommation au niveau mondial était celui d'un citoyen nord-américain, la consommation mondiale serait multipliée par 4. Ainsi, c'est la croissance démographique élevée dans les pays en voie de développement conduira à une croissance forte des besoins dans les pays en développement, alors que les pays de l'OCDE devraient connaître une stagnation de la demande.
Vous avez donc ici
un graphique qui montre l'importance de cette croissance à l'horizon 2020, sa concentration sur les pays en développement, et d'où l'importance pour la prévision, quand on fait de la prévision à plus long terme, de cette question de la croissance démographique. Quelles sont les ressources en énergie fossile qui seront disponibles à long terme? Face à ces perspectives de croissance, disposerons-nous à l'horizon 2020-2050 de ressources suffisantes? Par nature, les ressources en énergie fossile sont limitées, ce qui conduit à aborder la question de leur épuisement possible. La question est naturellement surtout importante en ce qui concerne le pétrole brut. L'estimation des réserves de pétrole brut est un exercice complexe et qui donne lieu à de très fortes controverses entre les optimistes et les pessimistes depuis les controverses des années 70 du Club de Rome. On évalue d'abord ces ressources à partir de la notion de réserve prouvée. Les réserves prouvées sont assez bien définies. Ce sont celles qui correspondent à des quantités qui sont présentes dans des réservoirs bien identifiés et pour lesquelles on peut évaluer avec une certitude raisonnable qu'elles seront récupérables de façon rentable dans les conditions économiques et techniques présentes. Donc, dans la notion de réserve prouvée, il y a à la fois une notion technique, c'est-à-dire la possibilité de récupérer les hydrocarbures en place avec des moyens techniques suffisants. Alors cette notion technique naturellement se modifie dans le temps. Par exemple aujourd'hui on sait produire à des profondeurs importantes dans l'offshore de l'Afrique ou du Brésil ou du Golfe du Mexique des ressources pétrolières qui n'étaient pas possibles de produire ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Cette notion de réserve prouvée comprend également une dimension économique et elle est liée au prix du pétrole. La production de ces réserves soit rentable en fonction d'un certain prix du baril et de l'évolution des coûts de production. Les méthodes d'évaluation des réserves sont assez normées en ce qui concerne les compagnies internationales, essentiellement pour des raisons financières, dans la mesure où les grandes compagnies internationales qui sont cotées notamment à la Bourse de New York ont l'obligation de publier leurs réserves prouvées selon des normes qui sont très précises et auditées par les autorités boursières. En revanche, en ce qui concerne les évaluations qui sont fournies par les compagnies nationales des pays producteurs ou qui sont fournies par les pays producteurs, elles présentent un beaucoup plus grand degré d'imprécision et il est en effet probable qu'elles soient en partie biaisées pour des raisons d'affichage ou pour des raisons politique dans la mesure où le niveau des ressources prouvées sont l'un des paramètres qui sont pris en compte dans la détermination notamment des quotas de production à l'intérieur de l'OPEP. Vous remarquerez sur ce graphique qui montre l'évolution des ressources prouvées la forte hausse qui est intervenue à la fin des années 80 et qui est liée à ce facteur politique de réévaluation des réserves prouvées des pays producteurs à l'intérieur de l'OPEP. Ces limites étant précisées, il est possible d'évaluer à près de 140 milliards de tonnes, soit 1 000 milliards de barils, les réserves prouvées. Le ratio réserve sur production permet de comparer le niveau de ces réserves prouvées au niveau de production actuelle, ce qui donne, dans les histogrammes du bas du graphique, un montant de 41 années de production au stade actuel. Selon ce que l'on constate sur longue période, c'est que ce ratio a oscillé autour de 40 ans depuis une dizaine d'années, en dépit d'une production pétrolière en croissance. Dans les années 70, ce ratio était même inférieur, puisqu'il s'élevait à 30 ans. Certes, d'un côté, les nouvelles productions viennent chaque année réduire le montant des ressources, mais chaque année également, l'amélioration des taux de récupération des hydrocarbures en place, les nouvelles découvertes qui résultent de l'effort d'exploration, la réévaluation surtout des quantités qui sont présentes dans les gisements, ont contribué à augmenter ce niveau des réserves prouvées. Cela étant, elle ne représente que la partie visible de l'iceberg global qui est constituée par ce qu'on appelle les ressources ultimes pétrolières, celles qu'il est possible d'évaluer comme disponibles sur le très long terme. L'estimation des ressources ultimes récupérables de pétrole donne lieu à de très grandes controverses entre les différents experts. Toutefois, comme le montre ce graphique, on voit que sur longue période, les avis sont divergents, mais il y a une certaine stabilité dans une plage comprise entre 2000 et 3000 milliards de barils des différentes estimations qui ont été faites. Et ce qui est frappant, c'est qu'au fil du temps, il n'y a pas une augmentation forte de cette estimation des réserves ultimes, donc potentielles, de pétrole. Selon les pessimistes, à partir de ces chiffres sur les réserves ultimes, nous ne disposerions plus que des seules réserves prouvées, soit environ 40 ans de réserves, et nous atteindrions donc vite un pic de production pour le pétrole conventionnel aux alentours de 2010-2020. Ce graphique, au contraire, correspond plus à la position des économistes de l'énergie qui sont plus optimistes et qui considèrent qu'il y a un potentiel de découverte important. Comme vous le voyez, les réserves prouvées à 1 000 milliards de barils, vous avez deux possibilités d'accroissement des réserves de brut conventionnelles. Les efforts d'exploration-production, notamment l'offshore profond et l'intensification de l'effort d'exploration-production, ainsi que la réévaluation des réserves en place. Deuxièmement, l'accroissement du taux de récupération. Je rappelle que le taux de récupération des hydrocarbures, de l'huile en place sur un gisement classique est de l'ordre de 30%. Une simple élévation de ce taux par l'amélioration des techniques de production de 30 à 40% permettrait d'augmenter de 700 à 800 milliards de barils les réserves ultimes, soit autant que l'ensemble du pétrole consommé depuis l'histoire du pétrole, qui correspond à peu près au même ordre de grandeur. Donc les points de discordance entre optimistes et pessimistes sont liés essentiellement à l'apport des ressources en mer profonde, à l'évaluation du progrès des taux de récupération. Est-ce qu'il est possible d'augmenter dans telle proportion le taux de récupération? Est-ce qu'il y a un potentiel pour découvrir des structures de taille importante dans le monde, sachant que les très grandes découvertes pétrolières sont pour l'essentiel derrière nous? À ces ressources de pétrole conventionnelles viendront s'ajouter aussi les ressources de pétrole qu'on appelle aujourd'hui non conventionnelles, parce que non économiques dans les conditions actuelles. Ce vocable recouvre aussi bien les pétroles extra-lourds du Venezuela, ou le bitume de la ceinture de l'Orénoque, ou les sables asphaltiques du Canada, le bassin de l'Athabasca, qui sont des formes de pétrole très lourds et dégradés par oxydation. Les quantités en place de ces pétroles non conventionnels sont considérables, mais les techniques d'exploitation sont problématiques. Les taux de la récupération de ces ressources est difficile et suppose des progrès dans les techniques de production, mais qui ne sont pas du tout exclus dans les années à venir. Comme il est indiqué dans ce tableau, le potentiel d'amélioration permettrait à des ressources complémentaires de l'ordre de 600 milliards de barils. Les ressources en gaz naturel, en valeur absolue, atteignent le même niveau que les ressources prouvées de pétrole. Ce qui est différent, c'est que la production de gaz naturel est inférieure de près d'un tiers à la production de pétrole et que cette base de réserve gazière confère une longévité apparente plus forte au gaz naturel. Ainsi, le ratio réserve sur production atteint aujourd'hui 60 ans contre 45 ans il y a une trentaine d'années. Les problèmes d'estimation sur des réserves ultimes sur le gaz sont un petit peu de même nature que pour le pétrole, avec toutefois un facteur positif, c'est que le potentiel de l'exploration est plus important pour le gaz, parce que pendant très longtemps, les compagnies pétrolières trouvaient du gaz un peu par hasard, mais elles cherchaient essentiellement du pétrole, donc il y a un potentiel d'exploration plus important sur le gaz. En revanche, il y a beaucoup moins de potentiel sur l'amélioration des taux de récupération de gaz, dans la mesure où le gaz étant naturellement éruptif, le gaz en place est intégré à hauteur de 80-85% sous forme de réserve, donc le potentiel d'amélioration est très faible. Le développement des gisements de gaz loin des marchés se heurtera bien sûr à la barrière du coût de transport que nous évoquions précédemment. Certes, une amélioration est possible, mais elle n'annulera pas le différentiel qui existe avec le pétrole. Une autre perspective d'augmentation des ressources, c'est la possibilité de convertir le gaz en hydrocarbures liquides, qui pourrait constituer une solution au problème de l'éloignement des réserves gazières. Ce procédé consiste à convertir sur site le gaz naturel en carburant, en hydrocarbures liquides, essence ou gazole, qui sont aisément transportables et très adaptés aux besoins de l'économie mondiale en matière de carburant. Certaines compagnies pétrolières qui cherchent à améliorer ce procédé assurent que l'exploitation de grands complexes de conversion de gaz en hydrocarbures liquides serait possible à l'échelle industrielle avec un prix du brut durablement supérieur à $25 de baril. Donc on n'est pas loin de cette échéance et ceci donnerait des ressources de l'ordre de 100 milliards de barils d'équivalent pétrole supplémentaire. J'en viens maintenant aux ressources en charbon. Les ressources en charbon revêtent un plus grand degré d'imprécision que pour les hydrocarbures, à la fois pour des raisons techniques et c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas de problème de ressources en matière de charbon. Les ressources prouvées représentent 540 milliards de TEP, soit près de 250 années de réserve, ce qui est effectivement considérable. Au regard de ces réserves, il faut imaginer que dans le très long terme, des possibilités de progrès techniques comme la synthèse du charbon en carburant liquide ou la gazéification du charbon pourrait faire un certain nombre de ponts entre les réserves de charbon et les besoins de l'économie de demain. J'en viens maintenant à la répartition géographique de ces ressources. Comme on le voit sur ce tableau, autant les ressources de charbon sont assez bien réparties, autant les ressources de pétrole sont extrêmement concentrées dans les pays de l'OPEP et sont à 2/3 dans les pays du Moyen-Orient, et 80% des ressources gazières sont localisées dans l'ancienne URSS et dans les pays de l'OPEP. Ceci pose le problème de la dépendance des pays consommateurs vis-à-vis des hydrocarbures. La dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations pétrolières s'élève déjà aujourd'hui à 75% et elle est de l'ordre de 40% pour le gaz. Cette situation se détériorera encore à l'avenir. En effet, les pays consommateurs, il y a un très fort écart entre la répartition des réserves et la répartition des productions. Ainsi, l'ensemble, les pays consommateurs épuisent plus rapidement leurs réserves que les pays producteurs. Et l'ensemble des pays en dehors de l'OPEP fournissant 60% de la production de pétrole alors qu'ils ne détiennent que le quart des réserves mondiales. Ce problème de dépendance sera d'autant plus aigu que de plus en plus la production sera concentrée dans un petit nombre de pays producteurs, comme le montre cette carte qui montre la répartition des réserves de pétrole. On voit la très très forte concentration de ces réserves notamment dans les pays du Moyen-Orient et la concentration des productions au cours des prochaines années de cette zone posera naturellement un problème géostratégique majeur. Ainsi, en 2020, c'est près du tiers de la production mondiale de pétrole qui pourrait être amenée à transiter par le détroit d'Ormuz et donc à venir du golfe Persique. Les deux crises du pétrole de 73 et 79 ont mis en relief la dépendance très forte de notre pays par rapport aux ressources d'énergie fossiles. C'est pour desserrer cette contrainte que la France a choisi d'investir dans le nucléaire, de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables. Ces orientations ont permis à la France de limiter cette situation de dépendance à peu près à la moitié de ses besoins. Comme le montre ce tableau, très rapidement, l'impact des politiques énergétiques peuvent quand même être majeurs à l'échelle d'un pays comme la France. Ainsi, on voit que le taux d'indépendance est aujourd'hui proche de 50%, l'intensité énergétique a baissé de 20%, et il n'y a plus aujourd'hui d'énergie dominante en France. L'approvisionnement extérieur a également été diversifié, la dépendance pétrolière du Moyen-Orient ayant chuté depuis le premier choc pétrolier de 75% à 40%. J'en viens maintenant au troisième point, quels sont les facteurs qui joueront sur les parts de marché des différentes énergies à long terme ? J'évoquerai successivement le problème des problèmes de l'environnement, l'impact de l'environnement sur l'avenir des énergies fossiles et ensuite les problèmes de compétitivité des énergies fossiles. En ce qui concerne l'environnement, je voudrais d'abord rappeler qu'il n'y a pas de carburant ou de combustible qui soit parfaitement propre. Quelle que soit la filière énergétique utilisée, la production et la consommation d'énergie induit des impacts forts sur l'environnement. Un certain nombre d'effets sont bien connus. C'est d'abord les problèmes pour les énergies fossiles, les problèmes de pollution de l'air, pollution atmosphérique locale, avec les émissions de soufre, de particules, d'hydrocarbures imbrûlés dans la circulation automobile, la pollution globale avec le CO2, les rejets de déchets avec les batteries électriques, les déchets nucléaires ou les effluents liquides divers. Les énergies nouvelles et renouvelables posent aussi un certain nombre de problèmes d'environnement. Pollution sonore, pour les éoliennes, encombrement de l'espace pour les éoliennes ou le solaire, modification des flux hydrologiques avec l'hydroélectricité ou déforestation liée à l'utilisation massive de la biomasse en Afrique. Ces impacts environnementaux doivent également être appréciés sur l'ensemble de la filière. Par exemple, la récupération toujours plus poussée des impuretés dans les carburants suppose une transformation massive dans les raffineries qui elle-même est très génératrice de CO2. Dans les années 70, les principales préoccupations étaient relatives aux énergies, étaient surtout relatives au problème de qualité de l'air, avec les problèmes d'émissions de soufre dans les grandes installations de combustion ou les problèmes d'émissions des véhicules. Peu à peu, le durcissement des réglementations, les mesures fiscales ou des normes plus sévères sur les produits pétroliers ont conduit à faire des progrès importants dans ce domaine. Aujourd'hui, la préoccupation dominante et plus globale est celle qui est liée à l'effet de serre. Il y a aujourd'hui un consensus de la communauté scientifique sur la réalité du réchauffement de la planète et des engagements internationaux qui ont été pris au niveau international pour tenter d'enrayer la progression des émissions, notamment de gaz carbonique. Certes, des interrogations subsistent sur la complexité des phénomènes climatiques et sur les conséquences du réchauffement de la planète. Il est certain que le rejet massif dans l'atmosphère, notamment de gaz carbonique, qui est indissociable de la combustion des énergies fossiles, est un facteur qui handicapera à l'avenir la consommation d'énergie fossile. Le niveau des émissions de CO2 lors de la combustion, naturellement, dépend des sources d'énergie utilisées. Elle est beaucoup plus forte pour le charbon, supérieure à une tonne de carbone par TEP de charbon consommé, que pour le pétrole, où elle est de l'ordre de 0,9, ou pour le gaz, où elle est de l'ordre de 0,6. Ce problème de pollution globale par le CO2 suppose des solutions concertées au niveau international. Comme le montre ce graphique, les émissions de CO2 sont très concentrées dans les pays développés aujourd'hui, mais à l'horizon 2020, la situation aura fortement évolué et la contribution des pays en développement sera devenue majoritaire. Les engagements qui ont été pris actuellement prévoient que les pays développés réduisent de l'ordre d'un peu plus de 5% leurs émissions par rapport à 90. L'effort pour la France est inférieur à l'effort moyen demandé y compris au niveau européen, dans la mesure où la période de référence enregistrait un niveau d'émission de CO2 très faible en France par rapport aux autres pays européens, notamment en relation avec le nucléaire, qui a permis une diminution des émissions de CO2 dans les années 80 de l'ordre de 25%. Toutefois, ces objectifs qui paraissent en termes quantitatifs modérés sont extrêmement ambitieux et difficiles à atteindre si l'on prend en compte l'évolution de la consommation et notamment la concentration du problème que l'on voit sur ce graphique dans le secteur des transports, pour lequel on a vu qu'il n'y avait pas d'alternative à court terme pour les produits pétroliers et que c'est dans le secteur des transports qu'un effort devra être fait pour limiter nos émissions de CO2. Et les débats récents que nous connaissons sur le problème des carburants montrent que ça ne sera pas un exercice facile. Je voudrais maintenant venir au problème de la compétitivité des différentes énergies fossiles. La question du coût de l'énergie payé par le consommateur restera une question centrale dans la mesure où l'énergie est un facteur de production important, même si sa part dans le PIB des pays développés a été réduite. C'est dans le maintien de la compétitivité des prix de l'énergie pour les grands pays développés reste un objectif important, et c'était celui qui était poursuivi par l'Union européenne dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'énergie, notamment de l'électricité et du gaz. La crise que nous connaissons aujourd'hui sur le marché pétrolier vient toutefois nous rappeler que le marché ne peut constituer l'alpha et l'oméga de toute politique énergétique. L'objectif est en effet à long terme de pallier les fluctuations de volume et de prix des énergies importées et de disposer d'une énergie la plus avantageuse possible à court et à long terme. L'exemple du pétrole est à cet égard très spectaculaire. C'est le prix de référence sur le marché de l'énergie et il a été disponible à des prix relativement bas depuis une quinzaine d'années. En moyenne annuelle, il a été compris entre 13 et 21 dollars, avec une tendance sur cette période à concentration entre 16 et 20 dollars. Aujourd'hui, les prix. Donc, on voit sur ce graphique où vous avez les prix en haut en francs courants et en bas en francs constants, que ça permet de relativiser la situation actuelle. En francs constants, nous sommes à des niveaux qui restent inférieurs au niveau de 1974. Ce qui met en défaut les prévisions qui avaient été faites il y a une vingtaine d'années, annonçant des prix du pétrole supérieurs à 50 dollars pour l'an 2000. Il est très difficile de savoir aujourd'hui si la crise que nous connaissons aujourd'hui sera une crise de court ou de moyen terme. Ce qui est certain, c'est que l'inélasticité partielle de la demande au prix et la concentration des capacités de production de pétrole dans un petit nombre de pays laissent augurer la persistance d'une très forte volatilité des cours. Ce que l'on peut dire, c'est que sur le moyen terme, il devrait être compris dans une fourchette comprise entre 10 dollars le baril et 35 dollars le baril maximum. Le niveau de 10 dollars le baril que nous avons connu il y a 2 ans, correspondant au coût marginal de production de zones comme la mer du Nord ou comme l'Alaska, il correspond également au prix qui est insupportable pour les grands pays producteurs en termes d'équilibre budgétaire et même d'équilibre politique. Le plafond de 35 dollars le baril, lui, est également insupportable pour les pays consommateurs. Il entraînerait des mesures de réduction de la demande et de relance des énergies alternatives qui seraient de nature à avoir un effet correctif. Le commissariat au plan a défini dans son rapport 2010-2020 plusieurs scénarios. L'un, un scénario de prix bas avec des prix à long terme de l'ordre de 17 dollars, un scénario aux alentours de 25 dollars et un scénario aux alentours de 30 dollars. Donc, dans ces différents cas de figure liés à différents scénarios de croissance et de prix, on resterait donc dans cette fourchette de 10 à 35 dollars. Si la crise pétrolière que nous connaissons aujourd'hui pourrait n'être que transitoire, il reste donc certain que la volatilité restera forte. Or, ceci est d'autant plus regrettable que les fortes variations des prix de l'énergie ont conduit à des politiques de stop and go en matière d'investissement qui viennent elles-mêmes amplifier ces variations. Et c'est bien aujourd'hui parce qu'on a eu une période de prix très déprimée au cours des dernières années qu'il y a eu ralentissement des investissements et qu'on se trouve aujourd'hui face un certain retard dans les investissements pour développer les gisements de pétrole et de gaz. Le prix du pétrole, sur le long terme, reste un prix qui est politique. Et selon une boutade qui est bien connue, le prix du pétrole est défini à parité par l'OPEP et par le marché. L'OPEP fixant les deux premiers chiffres avant la virgule et le marché les deux chiffres qui suivent la virgule. Toutefois, il faut souligner qu'en termes de prix relatifs, le pétrole a bénéficié d'un avantage considérable au cours des 15 dernières années. Et que les prix bas ont conduit en même temps à une formidable accélération du progrès technique dans la production pétrolière, avec par exemple le développement des forages déviés et horizontaux, les nouvelles techniques d'exploration en géophysique avec la sismique à trois dimensions, ou encore le développement des géosciences. Ainsi, les progrès, la diminution des coûts techniques de production a été de l'ordre d'un dollar par baril chaque année, en moyenne sur les 10 dernières années, et les compagnies pétrolières sont en mesure de lancer des développements à moins de 15 dollars le baril. La question de la compétition entre les énergies fossiles sera extrêmement forte, notamment dans le domaine de l'électricité. Je n'entre pas dans le détail, mais la forte croissance de l'électricité et la compétition des différentes sources d'énergie pour la production d'électricité sera certainement un élément clé pour leurs parts de marché respectives. Je voudrais maintenant conclure rapidement en dressant quelques perspectives à plus long terme. Il est clair que le monde ne manquera pas de pétrole dans les 20 prochaines années, mais la question se posera à plus long terme à l'horizon du milieu de ce siècle. Et comme le disait Huxley, les faits ne cessent pas d'exister parce que nous les ignorons. En effet, dès que le pic de production sera atteint, peut-être dès 2020 ou 2030, le renchérissement du prix du pétrole poussera à concentrer ses usages, son utilisation sur les usages à plus forte valeur ajoutée, essentiellement dans le secteur des transports. Quant au gaz, son développement restera obéré par les coûts de transport, alors que l'usage du charbon sera de plus en plus handicapé par les émissions de gaz carbonique et qui sont suscitées par sa combustion, et ceci sera un problème dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre. Le bouclage du bilan énergétique supposera donc des politiques d'énergie volontaristes, une énergie nucléaire mieux acceptée au plan mondial, des progrès de compétitivité des énergies renouvelables. Le passage à une économie post-pétrolière est très difficile à dater compte tenu des ruptures possibles au plan de la croissance démographique, au plan de l'organisation de la société avec une possible dématérialisation croissante des échanges, ou encore des ruptures technologiques, par exemple les ressources d'hydrocarbures non conventionnelles comme les schistes bitumineux ou les hydrates de gaz, ou bien le développement d'énergies renouvelables comme l'hydrogène ou la pile à combustible. Quoi qu'il en soit, étant donné l'inertie des bilans énergétiques, et les incertitudes géopolitiques liées à notre dépendance par rapport aux hydrocarbures, il faut dès maintenant prolonger et intensifier les efforts d'économie d'énergie et les encouragements aux filières alternatives. Le rôle du citoyen dans ces orientations de la politique énergétique sera fondamental. Quel degré de risque accepterons-nous d'assumer dans le domaine des transports, du nucléaire ou du réchauffement de la planète ? Serons-nous prêts en tant que citoyens à réduire nos déplacements, à accepter le covoiturage ou à payer plus cher notre essence ? Je pense que l'avenir des énergies fossiles devra de plus en plus être un élément du débat démocratique et les choix politiques qui seront faits seront déterminants pour évaluer la structure du bilan énergétique mondial à l'horizon 2050.
Bonsoir, monsieur. Quelqu'un a toussé, on n'a pas bien entendu ce que vous avez dit au début de votre conférence. À combien revient l'acheminement du pétrole des pays producteurs vers les pays consommateurs, s'il vous plaît? Vous avez dit quelque chose comme 1,5, puis on n'a pas entendu le reste, s'il vous plaît. Puis d'autre part, je voudrais savoir, souvent on nous dit le pétrole coûte tant le baril, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'il vous plaît? Merci.
Sur le premier point, le chiffre que j'avais cité était de 1,5 dollar par baril pour transporter une cargaison de pétrole brut entre le Moyen-Orient et les États-Unis. C'était aussi pour illustrer l'écart qu'il y avait avec le gaz naturel, l'ordre de grandeur des écarts étant au moins de 1 à 5. En ce qui concerne le prix du pétrole, il faut distinguer la notion de prix du pétrole et de coût de production. Ce que je disais, c'est que les coûts de production ont très fortement diminué
au cours des dernières années sous l'impact du progrès technique et que actuellement les compagnies pétrolières peuvent lancer des grands projets de développement qui sont rentables pour un baril aux alentours de $15 par baril sur longue période. Les prix que nous connaissons actuellement à $30 le baril sont effectivement liés à des facteurs de limitation de la production du côté des pays producteurs qui ont souhaité, après un prix très bas, le prix très bas de $10 le baril, le point bas qui avait été atteint à la fin de l'année 98, par des mesures de restriction de l'offre, entraîner une hausse des prix. Et je dirais que l'effet qu'ils ont recherché a été plus qu'atteint et que la situation maintenant est plus très bien contrôlée par personne, avec des prix du pétrole aux alentours de $30.
Voilà. Ah oui, par baril.
159, ça.
Merci beaucoup. Monsieur, tout en haut, à gauche, une question. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît?
On m'entend, là? Non, on m'entend pas. Oui, on m'entend. Il y a des solutions. On peut faire de la rétorsion. Par exemple, mettre les camions sur les trains. Il y a 30 ans qu'on en parle. Alors, autre solution... En 1935, on avait fait des études sur la carbonisation du charbon en Russie et en France. C'était excellent, les résultats. On pouvait carboniser au fond de la mine, créer une usine d'électricité et puis transporter l'électricité. Ce qui était à ce moment-là, c'était le prix des lignes électriques. Alors, il y a une solution dont on a parlé il y a une quinzaine d'années, c'est carboniser les montagnes de Chine, les montagnes de charbon. Et il faut évidemment, la question avec le transport des lignes, ce sont les progrès de la physique, de la supraconductivité qui abaissent la résistance terriblement, ce qui permet de faire des lignes de transport beaucoup meilleur marché pour le compte du comptable, n'est-ce pas?
Donc, quelle est votre question?
Alors, ma question est, est-ce qu'on a une estimation de ce qui se peut se faire à propos de ces carbonisations en Chine et du transport? Est-ce que l'OECD, etc., et les organismes ont fait des estimations sur ce que ça pourrait être de remplacement?
Je ne suis pas sûr d'être en état de répondre à la question sur le transport de l'électricité, donc.
Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? Sinon, on va passer à une autre question.
Eh bien, pour avoir l'électricité, on la fabriquera sur place et puis on la transportera.
Oui, d'accord, c'est bien ça, c'est bien la question.
En Australie ou en Chine.
Oui, la question, c'est le problème du transport de l'électricité qui, effectivement, dans l'état actuel, pas possible sur très longue distance. Tout progrès qui sera fait dans ce domaine-là, effectivement, pourra donner un petit peu de flexibilité.
Vous pourrez apporter un peu de flexibilité, on entend mal.
Oui, je disais que la question, c'est celle du transport de l'électricité sur longue distance et que les progrès qui pourront être faits donneront une certaine flexibilité, mais ça ne résout pas le problème de la génération d'électricité, c'est-à-dire à partir de quoi produit-on l'électricité et les handicaps du charbon, notamment en Chine, restent posés.
Merci beaucoup. Une autre question, une en haut après, une en bas maintenant.
Oui, bonsoir monsieur. Vous avez dit que sur la production de gaz, il n'y avait que 20% qui était consommé. Alors moi, ça m'a fait naître une idée. Je me disais, je me posais la question de savoir si on ne pouvait pas utiliser les 80% qui restaient pour produire de l'énergie éolienne, par exemple. Faire tourner les moulins. Avec du gaz, c'est possible.
La question.
Très rapidement, je voulais dire aussi que je voulais savoir comment on pouvait arriver à trouver plus de réserves alors qu'on consomme toujours plus. La Terre, c'est pas une gruyère, où est-ce qu'on va creuser tout ça?
C'est vrai. Est-ce que vous pouvez répondre?
Bonne question. Oui, les 20%, en fait, c'était 20% qui faisaient l'objet d'un transport international. Donc, le gaz, il est en fait consommé par région, c'était ça l'idée, mais il est consommé, enfin, le gaz produit est consommé intégralement. La question des réserves, comment on a de plus en plus de réserves? Il y a un certain nombre de facteurs. Il y a naturellement la consommation de pétrole vient diminuer les réserves, ça c'est sûr. Mais dans le même temps, il y a des facteurs qui font plus que contrebalancer cet effet. C'est d'abord les nouvelles découvertes qui sont faites. En ce moment, par exemple, le grand sujet, c'est les découvertes dans l'offshore profond, en Angola, dans le golfe de Guinée, parce qu'on sait maintenant produire du pétrole par grande profondeur d'eau. C'est également la réévaluation des gisements existants. Par exemple, la mer du Nord, quand on a lancé les développements en mer du Nord dans les années 70, on pensait que la mer du Nord serait terminée en 2000. Et de fait, d'année en année, du fait de la réestimation des réserves, on a une poursuite à des niveaux très élevés de la production de pétrole en mer du Nord. Le troisième facteur, c'est aussi les progrès dans les techniques de récupération, l'amélioration des taux de récupération sur les gisements, puisque, comme je disais, en moyenne, quand on a un gisement de pétrole, on sait qu'on va en récupérer à peu près 30%. Si les progrès techniques permettent de monter ce taux de récupération, ça va augmenter d'autant les réserves. Donc la question que vous posez, elle se posera un jour, mais pour l'instant, on a repoussé l'échéance de cette question des réserves ultimes, notamment du fait du progrès technique, à un futur qui s'éloigne. Alors les optimistes disent qu'on trouvera toujours des solutions et ce sera un petit peu l'infini. Et les pessimistes disent peut-être qu'on progresse, mais sur le plan géologique, on connaît assez bien les ressources ultimes. On a une bonne idée des ressources ultimes d'hydrocarbures. Les géologues, avec les progrès qui ont été faits dans l'exploration, connaissent assez bien les réserves ultimes et qu'on atteindra un jour cette limite, peut-être assez rapidement, et que se posera le problème donc, de l'économie post-pétrole. Mais les deux thèses sont en présence et c'est un peu une divergence sur le calendrier. Si le problème se pose dans 100 ou 150 ans, ce n'est pas pareil que s'il se pose dans 20 ou dans 30 ans. Et c'est donc la question du calendrier. La question, elle est bonne, mais si c'est une question de très long terme, elle n'a pas la même acuité que dans l'autre cas.
Merci beaucoup. Trois dernières questions, une en haut, une à gauche et une à droite. Monsieur.
Oui, je voulais savoir si la facture pétrolière était vraiment un problème pour le gouvernement, sachant que la taxe intérieure sur les produits pétroliers, comme la gabelle sous l'Ancien Régime, est très rentable. Merci.
Alors, est-ce que la TIPP est rentable? Oui.
Oui, non, mais est-ce que justement la facture pétrolière est vraiment un problème pour le gouvernement?
Alors, la facture pétrolière, non, je veux dire, le problème de la facture pétrolière a beaucoup, beaucoup diminué. On a passé un chiffre tout à l'heure. Et maintenant, le poids de la facture pétrolière est très très faible sur le PIB parce que le PIB a cru qu'on s'est diversifié par rapport au pétrole. C'est moins de 2%, alors que ça devait être de l'ordre de 5% lors du deuxième choc pétrolier. Donc, lors du deuxième choc pétrolier, c'était un réel problème parce qu'il y a un à-coup brutal, un déficit commercial massif pour l'économie française. Aujourd'hui, d'abord, on a une balance commerciale équilibrée. Et le facteur énergie est relativement faible. Alors par contre, cette année, il a fortement cru. L'impact de la hausse des prix du pétrole, c'est de l'ordre de 60 milliards de francs d'impact sur nos importations. Donc c'est quand même important. Mais je dirais que le problème que pose aujourd'hui des prix élevés du pétrole, si ça devait perdurer, c'est plus l'impact sur la croissance économique globale, l'impact sur le coût des transports, donc sur tous les secteurs qui sont dépendants du pétrole, comme on l'a vu, c'est-à-dire le secteur transport, le secteur agricole, le secteur de la pêche, et puis pour les citoyens qui supportent la plus grande partie du prélèvement que représente cette facture énergétique à travers la hausse du prix des carburants. C'est tout à fait possible, c'est ce qui est en train de... Enfin, je ne sais pas si on est là pour parler de politique, mais oui. Il y a une baisse de la TIPP qui entre en vigueur le 1er octobre, donc ce week-end, qui a été décidé actuellement par le gouvernement. Il faut savoir que si on voulait baisser d'un franc par litre la TIPP, ça coûterait 50 milliards de francs. Il faudrait l'équivalent, ce serait une augmentation de l'ordre de 15% pardon, de l'impôt sur le revenu. Donc c'est quelque chose de considérable. Donc l'impact, alors soit on trouve des économies, soit on trouve des impôts alternatifs. Ce n'est pas une équation très simple.
Merci beaucoup. Avant-dernière question, monsieur, en bas à gauche.
Je voudrais simplement faire une remarque. Les énergies fossiles trouvent leur source dans l'énergie solaire. Or, l'énergie solaire a une source nucléaire. Ce qui revient à dire que les énergies fossiles, finalement, dérivent de l'énergie nucléaire. Enfin, c'est une remarque.
Oui, c'est incontestable.
Merci pour ce constat. Dernière question, tout en bas, merci.
Bonsoir, monsieur. Le conférencier d'hier a rappelé en 1976 la création de l'OPEP et la guerre du Kippour qui ont une influence déterminante sur les prix du pétrole. Aujourd'hui, en l'an 2000, on voit que sous l'égide de l'ONU, il y a des blocus contre des pays producteurs de pétrole parmi les premiers producteurs mondiaux comme l'Iran, l'Irak et la Libye. Est-ce que vous pensez que ça, ça n'entraîne pas une influence négative sur l'économie mondiale, une sorte de précarité de la part des producteurs, des acheteurs? On sait que l'industrie, par exemple, en Iran ou bien en Irak, a reculé. On sait qu'aussi au Soudan, par exemple, on a trouvé des gisements qui sont considérables, mais à cause de ce phénomène de blocus, on est tout le temps, et bon, les blocus ne servent à rien du tout. On voit très bien que le gouvernement irakien existe toujours. Merci.
Merci beaucoup. Toute dernière question, monsieur qui a insisté.
Peut-être que je réponde.
Pardon, excusez-moi, de respecter le temps qui nous est imparti.
Je ne vais pas répondre sur le fond, sur l'opportunité ou pas des embargos. Ce que je veux dire sur le plan strictement pétrolier, c'est que il y a une part de vrai dans le fait que les embargos, que ce soit des embargos américains, ONU, qui sont de différentes formes en ce qui concerne les différents pays, ils ont freiné les investissements, notamment des compagnies internationales dans ces pays. Donc dans cette mesure-là, ils ont certainement eu un impact pas très positif sur le marché du pétrole aujourd'hui. Cela étant, est-ce que les investissements auraient été faits là plutôt qu'ailleurs? Il y a d'autres questions. Mais c'est vrai qu'il y a eu un frein aux investissements liés aux embargos. En revanche, en ce qui concerne les exportations de pétrole, tous ces pays exportent autant qu'il est possible du pétrole brut, y compris l'Irak, puisque dans le dispositif pétrole contre nourriture de l'ONU, il n'y a plus de plafond aux exportations pétrolières irakiennes. Par contre, il y a des limitations à leur capacité d'importation de matériel qui freinent leur capacité d'investissement.
Merci beaucoup. Les questions se transforment parfois en constat. Monsieur, dernière question.
Bonsoir. J'aurais aimé que l'on parle du bousillage du monde, de la planète. On a mis des milliards d'années à constituer des réserves et en 200, 300 ans, on aura tout bouffé. Alors je me demande si dans 200 ans encore, il y aura du monde sur la Terre.
Je crois qu'il y a des objectifs qui ont été définis, donc ils sont acceptés par les grands pays. La mise en œuvre est problématique parce que les objectifs sont quand même extrêmement ambitieux. Il y a une autre dimension qui serait importante, c'est de savoir comment associer les pays en développement à cet effort par les politiques de développement conjoint, les relations entre pays développés et pays en développement sur ces problèmes d'effet de serre.
Merci beaucoup encore, Didier Houssain.